vous utilisez l'IA en ce moment même et vous ne réalisez probablement pas à quel point. Les recommandations de votre plateforme de streaming, votre GPS qui vous recalcule un itinéraire pour éviter les bouchons, votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux qui décide ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, le filtre anti-spam de votre boîte mail, la correction automatique sur votre téléphone. L'IA est déjà intégrée à votre vie de façon tellement fluide que vous avez cessé de la remarquer. Et chacune de ces interactions a un coût physique. De l'eau, de l'électricité, du territoire, de la qualité de l'air. Et c'est le quartier de quelqu'un qui en paie le prix. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement une question d'IA. C'est un schéma qui se retrouve dans presque tout ce que nous consommons. Et aujourd'hui, nous allons parler du vrai coût de la commodité. Ce qu'il faut pour que les choses arrivent dans votre vie en paraissant simples. Et pourquoi comprendre ce coût fait de vous un meilleur chef d'entreprise? J'ai appris récemment qu'une installation modulaire de minage de Bitcoin était proposée près de chez moi. Chez moi, 10 hectares, dans le Tennessee. Et ma réaction a été viscérale. Absolument pas. Pas ici. Et puis, je me suis arrêtée parce que cette réaction, ce sentiment de « pas dans mon quartier », c'est exactement la réaction que les gens ont eue pendant des décennies face aux choses qui alimentent notre confort. Les mines en République démocratique du Congo qui produisent le cobalt pour la batterie de votre téléphone. Les usines à l'autre bout du monde qui fabriquent votre ordinateur portable. Les centrales électriques qui font tourner votre stockage en ligne. Nous avons accepté tout cela parce que c'était loin. La cour arrière de quelqu'un d'autre, l'eau de quelqu'un d'autre, l'air de quelqu'un d'autre. Mais voilà ce que j'ai dû accepter de regarder en face. Si je ne l'accepte pas pour mon quartier, je ne devrais pas l'accepter pour le quartier de quiconque. C'est ce que signifie vraiment avoir une perspective globale. Pas seulement penser au monde quand c'est commode. Y penser quand ça vous coûte quelque chose. Et je veux être honnête avec vous. Je n'étais pas ignorante de ce débat avant que la proposition de data center apparaisse à l'ordre du jour d'une réunion municipale. J'ai failli obtenir une mineure en développement durable. Il y a plus d'une décennie, j'ai rédigé un mémoire sur la raison pour laquelle chaque immeuble du centre de Philadelphie et de Manhattan devrait avoir une toiture végétalisée. J'ai des licences en études afro-américaines et en sociologie de l'Université Temple. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à réfléchir à l'extraction, aux chaînes d'approvisionnement et à qui paie le vrai coût de la commodité. Je suis végane et l'une des raisons est environnementale. Un régime végétal produit 75% moins d'émissions de gaz à effet de serre et utilise 75% moins de terre qu'un régime riche en viande. J'ai découvert ça en rédigeant mon mémoire de MBA. C'est une étude d'Oxford portant sur plus de 55 000 personnes. Être végane est l'une des choses les plus impactantes qu'un individu puisse faire pour la planète, et c'est un choix que j'ai fait il y a des années. Je n'ai pas mangé de viande depuis plus de 20 ans. Mais, comme tout ce dont on devient dépendant et qu'on finit par accepter dans nos vies confortables, la question des data centers est longtemps restée un bruit de fond. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le privilège fonctionne comme ça. Vous pouvez entendre le bruit si vous écoutez. Mais la commodité vous donne la possibilité de ne pas le faire. Et en tant que femme noire profondément consciente de l'histoire, de l'extraction et de l'esclavage, je ne peux pas simplement continuer comme si de rien n'était une fois que ce bruit passe au premier plan. Je vis par la accountability radicale.
Cela signifie qu'une fois que vous comprenez l'extraction derrière quelque chose, vous changez votre comportement. Pas comme une posture, comme une pratique. C'est pourquoi je n'achète pas de produits avec du sucre ajouté, pas seulement comme choix alimentaire, mais aussi comme choix de chaîne d'approvisionnement. Une fois que vous comprenez l'histoire de la production sucrière, des 12,5 millions d'Africains réduits en esclavage et transportés vers les Amériques en grande partie pour la production de sucre jusqu'au travail en servitude pour dette qui se pratique encore aujourd'hui dans les champs de canne à sucre en Inde, vous ne pouvez plus l'effacer. C'est pourquoi je ne visiterai pas les Émirats arabes unis depuis que j'ai appris comment ces gratte-ciels ont été construits. C'est pourquoi je réfléchis à l'origine de mon chocolat, à qui a cueilli les bananes de mon smoothie et à ce que l'avocat bio dans mon assiette coûte vraiment au-delà du prix affiché. Aujourd'hui, je vais parler du schéma d'extraction qui traverse presque tout ce que nous consommons, de ce que les data centers IA ajoutent à ce schéma, de la façon dont les grands acteurs le gèrent, et de pourquoi tout cela vous concerne, vous, votre activité et les options que vous construisez, parce que cette plateforme est fondée sur la pensée systémique. Et la pensée systémique, c'est voir l'ensemble du tableau, pas seulement la case sur laquelle vous vous trouvez. Installez-vous. Je suis Makeda Bum. J'ai conclu près de 10 millions de dollars de ventes dans la tech en 4 ans, j'en ai gagné 7 chiffres et ici, j'enseigne aux chefs d'entreprise de service comment utiliser l'IA, les automatisations, les systèmes et les agents pour créer plus d'argent, de temps et d'options. L'IA évolue à la vitesse du quotidien et je vous aide à suivre le rythme. Nous aimons nous croire des consommateurs éclairés, nous recyclons, nous achetons bio quand nous pouvons. Peut-être que nous avons un sac réutilisable, mais la plupart d'entre nous ont un angle mort sur la chaîne d'approvisionnement complète de ce que nous consommons. Et cet angle mort n'est pas une question d'information. L'information n'est pas cachée. Elle n'est même pas difficile à trouver. Plus de 2,1 millions d'enfants travaillent dans des exploitations de cacao en Afrique de l'Ouest, et les producteurs de cacao reçoivent aujourd'hui 6% de la valeur d'une tablette de chocolat contre 50% dans les années 1970. Les ouvrières du textile au Bangladesh gagnent environ 90 euros par mois, pendant que l'industrie de la fast fashion génère 148 milliards de dollars par an. Et moins de 2% de ces travailleuses gagnent un salaire décent. Des cartels ont infiltré l'industrie mexicaine de l'avocat, qui génère plus de 2,5 milliards de dollars d'exportation annuelle, et des dizaines de milliers d'hectares de forêts ont été illégalement défrichés pour cultiver le fruit qui arrive dans vos supermarchés. Les travailleurs des plantations bananières en Équateur gagnent quelques dollars par jour tout en étant aspergés de fongicides toxiques par des avions qui passent au-dessus de leur tête. Vous pouvez vérifier chacun de ces faits. L'information existe. La question n'est donc pas celle de la prise de conscience. C'est celle de ce que nous faisons, de ce que nous savons déjà. Et le problème, c'est la dissonance cognitive. Nous tenons deux vérités en même temps et nous trouvons un moyen de les faire coexister. Nous savons que des enfants récoltent notre cacao. Nous aimons aussi vraiment le chocolat. Nous savons que les ouvrières du textile ne peuvent pas nourrir leur famille. Nous voulons aussi un t-shirt à 10 euros. Nous savons que la production d'avocats alimente la violence des cartels et la déforestation. Nous voulons aussi du guacamole avec nos tacos. Et voici le schéma que j'ai observé. Nous avons tendance à choisir une seule cause. nous trouvons le seul problème qui nous touche et nous y concentrons notre énergie. Peut-être le développement durable, le bien-être animal, les droits des travailleurs ou le climat. Et nous mettons des œillères sur tout le reste parce qu'il est inconfortable de réaliser que tout ce que nous faisons a un coût. Je comprends. C'est écrasant. Vous ne pouvez pas garder chaque chaîne d'approvisionnement en tête tout en gérant une entreprise, en élevant des enfants et en construisant quelque chose de significatif. Mais la pensée systémique signifie au moins voir le schéma, même quand vous ne pouvez pas résoudre chaque cas particulier. Et le schéma est le suivant. Quand quelque chose est bon marché et commode, quelqu'un quelque part paie généralement la différence. Tout a un vrai coût. Voici ce qui est intéressant avec l'IA. Quand vous regardez les industries que je viens de décrire, cacao, sucre, banane, avocat, textile, l'exploitation est directement humaine, des enfants avec des machettes, des travailleurs en servitude pour dette, des ouvrières gagnant moins d'un tiers d'un salaire décent, des communautés terrorisées par des cartels. Ce sont des industries qui représentent collectivement des milliers de milliards, construits sur le dos des personnes les plus vulnérables de la planète.
L'infrastructure de l'IA et des data centers est une industrie de plusieurs milliers de milliards. Milliards avec un grand M. Mais l'exploitation est d'une autre nature. Il n'y a pas d'enfants dans les data centers. Il n'y a pas de travail forcé pour faire tourner les serveurs. Le coût est environnemental et infrastructurel. Eau, électricité, qualité de l'air et impact sur les communautés où ces installations sont construites. C'est une distinction importante. Cela ne rend pas le coût acceptable. Mais cela signifie que la conversation est différente et honnêtement, cela signifie que le chemin pour y remédier est plus direct. Les coûts environnementaux peuvent être ingéniés. La traite des êtres humains et le travail des enfants exigent de démanteler des systèmes entiers de pauvreté et de corruption. Regardons donc ce qui se passe réellement avec l'infrastructure IA. Les data centers ne sont pas nouveaux. Ils alimentent Internet, l'informatique en nuage, les services de streaming et les réseaux sociaux depuis des décennies. Les fermes de serveurs qui font tourner votre messagerie, votre stockage en ligne, votre application bancaire, vos appels vidéo, tout cela consomme de l'électricité et de l'eau depuis des années. Ce qui a changé, c'est l'échelle. Les modèles d'IA nécessitent une puissance de calcul considérablement supérieure à une recherche web standard ou à un film en streaming. Chaque requête ChatGPT utilise environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google classique. Et plus d'un milliard de messages sont envoyés à ChatGPT chaque jour. La consommation mondiale d'électricité des data centers devrait avoisiner 1050 TWh d'ici 2026. Cela ferait des data centers le cinquième plus grand consommateur d'électricité au monde, entre le Japon et la Russie. Pas une entreprise, pas une industrie, une quantité d'électricité à l'échelle d'un pays. Et ce chiffre inclut tous les data centers, pas seulement ceux de l'IA. Internet, tel que vous l'utilisez depuis des décennies, il avait déjà une empreinte infrastructurelle massive. L'IA l'accélère. Voyons comment les grands acteurs gèrent la situation. Commençons par XAI. C'est la société d'IA d'Elon Musk qui a construit son data center Colossus à Memphis, dans le Tennessee. Ils l'ont construit en moins de 122 jours. Les membres du conseil municipal de Memphis l'ont appris aux informations. Aucune réunion publique, aucune étude environnementale, aucune consultation des habitants. L'installation fonctionne avec des turbines à gaz méthane, beaucoup sans permis,
et une pétition juridique a établi qu'il s'agit probablement de la plus grande source industrielle d'oxyde d'azote de la ville. Les oxydes d'azote contribuent au smog, aggravent l'asthme et augmentent le risque de cancer. South Memphis, où cette installation opère, est une communauté majoritairement noire qui fait face à la pollution industrielle depuis des décennies. L'installation puise des millions de litres par jour dans l'aquifère de sable de Memphis, la ressource en eau potable de la région. Il y a quelques jours à peine, des militants bloquaient l'entrée de l'installation, portant des respirateurs pour filtrer les polluants atmosphériques émis par les turbines à gaz. Meta est intéressant parce que Llama, leur modèle d'IA, est open source, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger et le faire tourner sur votre propre matériel. C'est une contribution significative à la décentralisation. Mais l'empreinte propre des data centers de Meta raconte une histoire plus nuancée. Et il est important de rappeler que ces data centers ne font pas tourner que l'IA. Ils alimentent Instagram, WhatsApp, Facebook et chaque plateforme utilisée par des milliards de personnes chaque jour. Leur consommation totale d'énergie pour les data centers a atteint près de 15 000 gigawattheures sur la dernière période de référence. Un seul data center de Meta en Louisiane peut utiliser plus de 23 millions de litres d'eau par jour. Pour situer les choses, c'est environ 35 piscines olympiques d'eau chaque jour pour une seule installation. De quoi alimenter environ 76 000 foyers. Les projections d'OpenAI montrent qu'ils prévoient de multiplier leur consommation d'électricité par 125 d'ici la fin de la décennie. Dans les régions du Texas où leur data center s'implante, il y aura plus de data centers que d'hôpitaux publics. Leur consommation d'électricité dépassera celle de l'ensemble des foyers résidentiels combinés. J'ai mis au monde mes deux enfants au Texas. J'y ai vécu des années. Je m'y suis mariée. Et nous avons dû partir, pas seulement parce qu'il faisait une chaleur insupportable, mais parce que la qualité de l'air était horrible à cause de toutes les raffineries de pétrole, l'eau était toxique et les inondations étaient incroyables. Et pourtant, l'industrialisation massive continue d'alimenter le confort de tout un pays. Anthropic, la société qui fait Claude, le modèle d'IA que j'utilise principalement, et avec lequel j'enseigne, a investi 50 milliards de dollars dans des data centers. Ils ont pris des engagements précis, prendre en charge 100% des coûts de mise à niveau du réseau électrique, mettre en service de nouvelles sources d'énergie, déployer des systèmes de refroidissement économes en eau. C'est nettement mieux que de faire tourner des turbines à gaz sans permis dans un quartier populaire. Mais ce sont quand même 50 milliards de dollars de data center. Le coût est géré de façon plus responsable, pas éliminé. J'utilise ces outils chaque jour. Je construis avec eux, je les enseigne. Ce podcast existe grâce à eux. Et je vous donne le tableau complet parce que être un utilisateur responsable de la technologie signifie voir la chaîne d'approvisionnement dans son intégralité, de la même façon qu'être un consommateur responsable de quoi que ce soit signifie comprendre ce qu'il a fallu pour que ça arrive jusqu'à vous. Alors, à quoi ressemble une utilisation responsable pour quelqu'un comme vous, un expert comptable à Lyon, un coach à Montréal, un conférencier à Dakar, un thérapeute à Bruxelles ou un cadre de direction à Abidjan qui utilise l'IA pour développer une meilleure activité? Premièrement, comprenez que toutes les utilisations de l'IA ne se valent pas. Une simple requête textuelle utilise bien moins d'énergie que la génération d'une image ou l'entraînement d'un modèle personnalisé. quand vous pouvez accomplir quelque chose avec un prompt bien conçu plutôt qu'en faisant tourner un agent pendant 30 minutes, vous faites un choix économe en ressources sans sacrifier le résultat. Si vous êtes conférencier et que vous utilisez l'IA pour transformer votre keynote en 10 contenus différents, un seul prompt bien structuré qui produit les 10 est mieux que 10 sessions séparées. Si vous êtes consultant et que vous utilisez l'IA pour construire des propositions clients, un système de modèles qui réutilise vos documents de base est plus efficace que de repartir de zéro à chaque fois. Ce ne sont pas seulement des choix environnementaux, ce sont de meilleures pratiques professionnelles. Moins de calculs, moins de coûts, meilleurs résultats. Deuxièmement, faites attention aux entreprises auxquelles vous confiez votre argent et vos données. Les différences entre la façon dont ces entreprises gèrent l'infrastructure, l'impact sur les communautés et la responsabilité environnementale sont réelles. Et ces différences comptent. En tant que chef d'entreprise, vos choix de fournisseurs sont vos valeurs en acte. Troisièmement, et c'est là que ça devient vraiment enthousiasmant pour moi, explorez les options open source et locales. Llama, Mistral et d'autres modèles open source peuvent tourner sur du matériel qui vous appartient. Aujourd'hui, l'écart de qualité entre les modèles open source et les modèles de pointe, comme Claude, est réel pour les tâches complexes. Mais pour les travaux structurés, comme le remplissage de formulaires, le traitement de données, la mise en correspondance d'opportunités et certains types d'automatisation, les modèles open source fonctionnant localement sont prêts dès maintenant. À quoi ça ressemble concrètement? J'ai fait des recherches sur le sujet, mais je ne l'ai pas encore fait moi-même, alors prenez cela avec du recul. Une machine avec une carte graphique haut de gamme dans votre bureau à domicile. Vous téléchargez le modèle. Vous le faites tourner. Vos données ne quittent jamais votre propriété. Vos requêtes ne transitent pas par un data center. Votre utilisation ne puise pas dans l'acquis faire de quelqu'un d'autre. Les outils logiciels pour faire ça, des choses comme Olama et Llama.cpp, sont apparemment gratuits et accessibles. J'en reparlerai quand je commencerai à tester et utiliser ces systèmes. Je vis sur 10 hectares dans le Tennessee. En théorie, je pourrais alimenter une installation IA local avec mes panneaux solaires ou une petite éolienne domestique. Mes requêtes tourneraient sur mon matériel, alimenté par mon électricité, refroidi par l'air ambiant. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une technologie disponible dès maintenant. Le solaire, l'éolien, le matériel et les modèles. Tout existe, il suffit d'assembler les pièces. Cela rejoint une philosophie que je vis depuis longtemps, même avant d'avoir un nom pour la désigner. Elle s'appelle le solarpunk. Et dans son essence, le solarpunk est la conviction que technologie et nature peuvent fonctionner ensemble, qu'un avenir durable et constructible est pas seulement imaginable, que la justice sociale, la justice financière et la justice écologique forment un seul et même projet. Je ne suis pas entièrement solarpunk, pour être honnête. Je ne crois pas que les systèmes décentralisés soient toujours meilleurs que les systèmes centralisés. Comme dans presque toutes les situations, ça dépend. Le contexte compte, mais les principes résonnent profondément avec ma façon de penser et de construire. Ce podcast s'appelle Seed and Society. Les graines font pousser les choses. La société est le système. La technologie qui travaille avec la nature, au service des personnes, c'est la philosophie depuis le début. Et je veux établir une distinction importante. L'objectif n'est pas simplement d'être durable. Durable signifie maintenir l'état actuel. L'objectif est d'être régénératif, améliorer activement l'état. Une forêt nourricière qui produit plus de nutrition chaque année sans replantation. Un moteur de contenu qui se capitalise sans exiger davantage de votre temps. Un système IA qui crée de la capacité dans votre activité tout en réduisant votre dépendance à une infrastructure que vous ne contrôlez pas. Régénératif signifie que le système redonne plus qu'il ne prend. C'est le standard. Revenons à ce que ça signifie concrètement pour vous. Que vous soyez consultant, coach, conférencier, thérapeute, architecte, avocat d'affaires, cadre de direction ou créateur de contenu, que vous gériez une activité de service, tout cela n'est pas abstrait. Vous utilisez ces outils dès maintenant pour servir vos clients, produire votre contenu, faire tourner vos opérations. La chaîne d'approvisionnement de vos outils IA fait partie de la chaîne d'approvisionnement de votre activité, que vous l'ayez envisagée sous cet angle ou non. Je parle de plus d'argent, de plus de temps et de plus d'options. C'est la promesse. Et tout ce que j'enseigne est au service de ces trois choses. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin sur ce que « plus d'options » signifie réellement. Parce que les options ne sont pas une abstraction. Les options, c'est « je peux vivre où je veux parce que mon activité n'est pas liée à un code postal ». Les options, c'est « je peux prendre l'après-midi parce que mes systèmes tournent sans moi ». Les options, c'est « je peux dire non à un client qui ne correspond pas à mes valeurs parce que j'ai suffisamment de revenus qui circulent pour ne pas avoir à dire oui par désespoir ». Mais toutes ces options nécessitent quelque chose en dessous. Vous avez besoin d'air pour respirer. Vous avez besoin d'eau propre pour boire. Vous avez besoin d'une terre saine et d'une nourriture sûre. Vous avez besoin d'un corps suffisamment en bonne santé pour profiter du temps que vous avez créé. Plus de temps ne signifie rien si vous êtes malade à cause de la pollution de votre quartier. Plus d'options ne signifie rien si les endroits qui valent la peine d'être vécus sont dévorés par l'infrastructure qui alimente les outils qui créent ces options. Plus d'argent ne signifie rien si vous ne pouvez pas acheter de l'eau propre parce que l'aquifère est épuisé. L'argent est un vecteur d'accès aux ressources. L'objectif final est toujours les ressources, les expériences, vivre la vie. Et les ressources ultimes sont celles qui vous maintiennent en vie. L'air, l'eau, la terre, la nourriture, l'abri. C'est pourquoi je parle de richesse fondée sur les actifs. C'est pourquoi je vis sur 10 hectares libres d'hypothèques avec une forêt nourricière et des mûriers sauvages qui reviennent chaque année sans que j'aie à les replanter. C'est de l'infrastructure. C'est une richesse pérenne. Le domaine n'est pas séparé de l'activité IA, c'est la même philosophie. Construire des actifs qui se capitalisent sans nécessiter votre présence constante. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que l'IA devrait vous aider à avoir plus de capacité pour faire davantage de choses humaines. Randonner, jardiner, lire un livre, danser, écouter de la musique, ressentir de l'énergie, des liens, de la joie. C'est au service de ça que tout ceci est censé être. Et voilà où je veux boucler la boucle pour vous en tant que chef d'entreprise, parce que cet épisode peut paraître pesant. Et vous vous demandez peut-être, d'accord, mais qu'est-ce que je fais de tout ça dans ma pratique de coach? Comment ça m'aide à conclure des clients? Pourquoi comprendre les chaînes d'approvisionnement compte quand j'essaie de développer mon cabinet de conseil? Cela compte parce que la pensée systémique est un avantage concurrentiel. Quand vous comprenez les chaînes d'approvisionnement, vous comprenez les affaires. Quand vous pouvez voir le coût complet de quelque chose, pas seulement le prix affiché, mais le coût humain, environnemental, infrastructurel, vous prenez de meilleures décisions sur vos fournisseurs, sur votre tarification, sur votre positionnement, sur les outils sur lesquels vous construisez votre activité. J'ai utilisé la pensée systémique pour conclure des millions de dollars en vente parce que je comprends les relations, les motivations, le contexte et ce dont a besoin un partenariat en entreprise. Le consultant qui comprend la chaîne de valeur complète de ses outils IA est un opérateur plus sophistiqué que celui qui ne voit qu'un prix d'abonnement. Le conférencier qui peut articuler pourquoi la pensée par les actifs s'applique aussi bien à l'infrastructure technologique, au système alimentaire et au modèle économique a un univers de référence plus riche à exploiter sur scène. Le créateur qui construit des systèmes régénératifs, qui redonne plus de valeur qu'il n'en prenne, crée quelque chose qui se capitalise au lieu de s'épuiser. C'est ce que je veux dire par plus d'options. Les options ne viennent pas seulement des revenus, elles viennent de la conscience, du discernement, du fait de faire des choix avec une information complète plutôt que de fonctionner par commodité et par présupposé. Si l'infrastructure nécessaire pour alimenter ces outils détruit les fondations physiques d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, alors nous devons tenir cette tension, l'interroger et utiliser ces mêmes outils pour créer une solution. Pas arrêter d'utiliser les outils. Les utiliser de façon responsable, comprendre le coût, exiger mieux et, dans la mesure du possible, construire vers la possession de votre propre infrastructure pour que le pouvoir et le bénéfice restent entre vos mains plutôt que d'extraire de votre communauté. Je veux conclure sur quelque chose qui occupe mon esprit. Nous avons traversé des versions de cela avant. L'ordinateur personnel a tout changé. Le smartphone a tout changé. Internet a tout changé. Mais le coût de ces révolutions s'est produit dans le quartier de quelqu'un d'autre. Les mines, les usines, les chaînes d'approvisionnement qui ont rendu votre iPhone possible étaient suffisamment loin pour que vous puissiez profiter du produit sans confronter le processus. L'IA est différente parce que l'infrastructure n'est plus seulement à l'autre bout du monde. Elle est à Memphis, elle est au Texas, elle est en Louisiane, elle est dans des villes moyennes à travers le pays. Le coût de cette révolution arrive dans nos propres jardins. Et la question est, allons-nous répondre comme nous l'avons toujours fait? Allons-nous continuer à chanter la chanson sur le paradis qu'on bétonne et garer quand même notre voiture sur le parking? Allons-nous pointer du doigt la déforestation en Amazonie et laisser nos propres aquifères se vider pour le profit de quelqu'un d'autre? Ou allons-nous faire quelque chose de différent cette fois? Parce que l'IA est le grand égaliseur. Je le crois profondément. Ces outils donne aux gens accès à des capacités stratégiques qui étaient auparavant réservées à ceux qui avaient la richesse, les diplômes et les bonnes adresses. Un expert comptable à Lyon peut construire les mêmes systèmes qu'un consultant à New York. Un conférencier à Dakar peut faire tourner le même moteur de contenu qu'un conférencier à Londres. Une thérapeute à Bruxelles, un coach à Montréal, et un cadre de direction à Abidjan peuvent tous accéder au même niveau de levier. C'est réel. Ça vaut la peine d'être protégé, mais le protéger signifie s'assurer que l'infrastructure qui l'alimente ne détruit pas les communautés qu'elle est censée servir. Et cela signifie être honnête sur ce que nous construisons, qui en paie le prix, et ce que nous retirons dans le processus. Que développons-nous vraiment? Et je dis « développons » entre guillemets, parce que dans bien des cas, ça peut être synonyme de destruction. J'ai des centaines de chênes sur ma propriété, de l'eau courante propre et une terre fertile vivante. Le seul développement dont ils ont besoin, c'est des graines, du soleil et de l'eau. Pas un centre de données ou de minage de Bitcoin.
Je n'ai pas toutes les réponses. Je suis sur ce chemin avec vous. Je me retourne pour vous montrer ce que je viens de comprendre. Et ce que je viens de comprendre, c'est qu'une utilisation responsable de l'IA ne se résume pas à la façon dont vous rédigez vos prompts. C'est comprendre la chaîne d'approvisionnement complète des outils dont vous dépendez et construire vers un avenir où la technologie travaille avec le monde au lieu de le consommer. C'est plus d'argent parce que des systèmes efficaces coûtent moins cher à faire tourner. C'est plus de temps parce que posséder votre infrastructure signifie moins de dépendance aux plateformes qui changent leurs conditions. Et c'est plus d'options. Parce que quand les outils avec lesquels vous construisez ne menacent pas le monde dans lequel vous voulez vivre, les meilleures possibilités pour l'avenir restent ouvertes. Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour créer plus d'argent, de temps et d'options dans votre activité de service sur sidonsociety.com. Inscrivez-vous à la newsletter, trouvez chaque outil IA que j'utilise et recommande, les labs et ateliers que j'anime, consultez le blog pour encore plus d'analyses ou faites le rapport gratuit IA Employee Report, tout au même endroit. Et si vous avez apprécié cette émission et en avez tiré de la valeur, je vous serai reconnaissante de la noter et de laisser un avis. Cela permet à cette formation gratuite d'atteindre plus de personnes. Et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. À la prochaine fois, continuez à planter les graines d'une meilleure société.